Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce podcast qui va être légèrement réac, je vais vous parler un petit peu d'algorithme, je vais vous parler de nutrition, on va même parler de stars rapidement, enfin on va parler de tout un tas de petites choses comme ça. Donc j'ai mis mon téléphone en vibreur, j'ai aussi à côté de moi des personnes qui sont en train de débroussailler, donc peut-être que vous allez entendre des bons gros moteurs thermiques de débroussailleuses qui se mettent à hurler dans le podcast, donc on verra, hein. J'ai pas encore un studio complètement calfeutré au centre-ville d'une grande capitale, donc du coup, ben voilà, c'est nature, et vous aurez peut-être un petit peu des bruits de fond, donc on verra. Bon, alors pour démarrer, j'ai sorti ce week-end, donc pour ceux qui étaient connectés à leur boîte mail ce début de semaine, ils ont dû voir que j'ai publié. Alors, pour ceux qui aiment le podcast, c'est une très bonne chose parce que c'est du MP3 à télécharger en ligne, etc. Vous pouvez l'écouter au fin fond d'un endroit sans réseau, si ça existe encore. C'est un contenu, en fait, sur la. J'ai fait toute une liste, enfin vraiment un déroulement de la motivation tout au long du temps, en fait, de pratique d'une personne qui arrive à tenir, en fait. Donc, c'est-à-dire quel est son schéma psychologique, quelles sont ses habitudes, etc. Par exemple, pour 3 mois d'entraînement, comment il fait pour passer la barrière des 3 mois, puis des 6 mois, des 1 an, des voilà, etc., jusqu'à 10 ans d'entraînement. Et en fait, on remarque chez ces personnes-là, au fur et à mesure des mois, des années et voire des décennies qui passent, on remarque chez ces gens-là des traits de personnalité, etc. Et donc, du coup, je vous les ai partagés. C'est un audio, donc c'est long, hein, c'est plus long qu'un podcast. Mais si vous aimez ça, si vous aimez le contenu audio, et si vous voulez du contenu dense, autre que de l'actualité, de la revue de presse, comme je vous fais dans les podcasts, donc quelque chose qui va vous faire avancer et pas juste méditer sur un sujet, eh bien, allez voir le lien en description. C'est en gros comment rester motivé 10 ans et plus. Et vous allez voir, enfin, moi, je me suis vraiment régalé à le faire. C'était vraiment quelque chose de passionnant. C'est passionnant de voir, en fait, les comportements, surtout qu'on a tendance à croire très souvent que ceux qui y arrivent, c'est ceux qui sont déterminés, motivés, qui ont de la volonté, de la discipline, alors que c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt des gens qui ont réussi à mettre le doigt sur certaines choses dans leur comportement, dans leur style de vie, et qui leur permettent aujourd'hui d'être toujours sous les barres et toujours avec en face d'eux dans leur assiette des aliments qui vont dans le sens de leurs objectifs. Voilà. Donc le lien est en description, fin de la petite page promo pour mon contenu VIP. Pour ceux que ça intéresse, on se retrouve de l'autre côté du rideau. Alors, on va démarrer avec du contenu léger. Contenu léger, ils ont, alors c'est dans l'émission Talk Sport, ils ont parlé de Cristiano Ronaldo, et le titre que j'ai donné, c'est Cristiano Ronaldo, il mange quoi ? Ouais, parce que vous savez que un petit peu l'icône masculine pour avoir des abdos apparents et une bonne ligne, c'est Ronaldo aujourd'hui. C'est bon, pour ceux qui savent pas, c'est un joueur de foot, hein. Mais moi, j'y connais rien en football, hein. Je suis pas du tout de la culture foot. Mais bon, voilà, même sans l'être, je sais qui est cet individu. Cet individu qui a aussi fait la promotion des trucs là, vous savez, qu'on colle sur les abdos et qui donne des bons abdos soi-disant, ces appareils d'électrostimulation, etc. Bon, et ben là, j'ai récupéré des notes, hein, dans l'article que j'ai trouvé. Vous avez les sources encore une fois dans les notes de l'émission. Alors, Lee Grant, un des gardiens remplaçants de Manchester United, a livré à TalkSport quelques secrets sur ce repas et donc sur le régime alimentaire de Cristiano Ronaldo. Alors il cite, enfin il dit « Aucun joueur n'a touché au dessert », a-t-il confié. « Personne n'est allé se servir, tout le monde est resté assis. » Un des gars m'a dit « Qu'est-ce que Cristiano a dans son assiette ?» Alors on jetait tous un coup d'œil à ce qu'il mangeait, et c'est évidemment les assiettes les plus saines que vous puissiez imaginer. Nous avons donc compris qu'il n'y avait pas de dessert dans l'assiette, mais qui avait-il donc ? Selon Lee Grant, quinoa, avocat et œufs durs étaient au menu du joueur portugais. Voilà donc le secret de Cristiano Ronaldo pour avoir ce corps incroyable, mais ce n'est qu'une petite partie du régime alimentaire. Bon, bah, globalement, moi je préfère lire ça. Et ça me semble plus cohérent de lire ça que de lire que c'est une machine à électrostimulation ou que c'est un complément alimentaire à la mode. Ouais, ça me paraît plus cohérent. Après, ce qui est intéressant, c'est il disait qu'à la cantine, là, ils voulaient tous regarder. Personne n'avait pris de dessert, du coup, vu que lui n'en prenait pas, ils n'en prenaient pas non plus. Et donc, voilà. Bon. Faut pas oublier qu'il y a des gens aussi. Moi, je suis pour le travail difficile. Donc, quand on s'entraîne difficilement, qu'on essaye de faire attention à sa diète et tout, il faut pas toujours mettre le côté génétique et dire bon bah lui il a la génétique, pas les autres. Mais après, bon, il faut pas enlever que ça existe aussi. Hein, il y a des gens qui ont une génétique hein, autour de vous. Vous en connaissez tous des gens qui, bon, bah, globalement, hommes et femmes, hein, tout le monde mélangé, peuvent se permettre de manger un peu ce qu'ils veulent et ne pas forcément choper. Un pneu autour de la taille, ça existe. Donc si vous cumulez ça à... Vous prenez une personne comme ça qui a ces capacités physiques-là, vous lui faites manger des choses saines, vous lui faites faire du sport, bah forcément cette personne-là aura beaucoup plus de facilité à avoir un physique qui se détache de la moyenne. Et donc vous pouvez vous aussi essayer d'éviter de manger des desserts, vous n'aurez pas forcément son physique. Mais moi je déteste ce genre de raisonnement. Parce qu'il est souvent très mal interprété. Il est mal interprété par les personnes qui vont se dire bah, finalement j'abandonne, ça sert à rien puisque moi je n'ai pas sa génétique. Alors que la réalité montre que quelle que soit la génétique, on peut tous progresser, quelle que soit sa génétique de base en fait. Hein. Il y a toujours une marge de progression et c'est juste que beaucoup de personnes souhaitent avoir exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'en se mettant au régime et en se mettant à faire de l'activité physique, ils veulent avoir le corps d'un tel. Mais ça, c'est même la chirurgie esthétique n'y arrive pas, donc c'est pas de la bouffe qui va y arriver. Par contre, enfin moi je trouve ça assez noble de se dire que ben, vous allez avoir le meilleur physique. Et en plus, le meilleur physique qui n'existe pas encore, en fait. Vous allez créer votre physique, le vôtre, qui n'existe pas, donc très singulier, en fait. Hein. Et ça, je trouve ça relativement motivant. Ça a été un des critères de motivation de mon début de parcours dans le monde du fitness. Ça a été la curiosité de savoir à quel niveau mon corps pouvait aller, avec les efforts que j'allais fournir, mais également à quoi il allait ressembler, en fait. On est toujours curieux de savoir un petit peu... de voir un petit peu comme une peinture, vous savez, quand vous commencez, bon, ben, tout le monde ne fait pas de la peinture ou du dessin, j'en fais pas, j'en fais plus, j'en faisais quand j'étais gosse, j'en fais plus, mais on est toujours curieux, un petit peu, vous savez, quand on dessine quelque chose, de voir le rendu final, quoi. Ben là, c'est un petit peu la même chose, et c'est unique, c'est votre corps. Donc, à quoi ressemblerait votre corps si vous faisiez tout ce qu'il fallait pour être en forme? Et moi, ça, je trouve ça hyper motivant et. Ça agit sur la curiosité, quoi. Bon, ben voilà, Cristiano, il mange du quinoa, des avocats, des œufs durs. Et tant mieux pour lui, ça lui réussit. Et ben voilà. Donc, c'est ce qu'il disait. Bref. Bon, deuxième petite actualité, bientôt du poisson sans poisson, ni arête, ni rien du tout. Donc selon un sondage de l'IFOP sur France Agrimaire, environ 2,2% des Français déclarent désormais observer une diète sans viande. Donc 24% se disent flexitariens et réduisent leur consommation. Donc le thème flexitarien, moi ça m'a toujours fait rire, parce que flexitarien ça veut dire que je mange pas de viande, enfin vite fait de temps en temps quoi, si on va au marché on prend un poulet rôti on en mange, mais sinon la semaine on n'en mange pas. Et en fait c'est vrai qu'aujourd'hui, alors dans certains lieux, dans certains environnements, dans certaines communautés même, on peut appeler ça même des communautés aujourd'hui, de dire qu'on mange de la viande et tout, c'est se faire cracher dessus, un petit peu comme de rouler en voiture diesel dans un centre-ville, on est le démon quoi. On prend limite des tomates, des cailloux, enfin pas des tomates, les végétariens vont pas gaspiller ça, mais on va quand même se faire un petit peu taper dessus. Et c'est vrai que de dire qu'on est flexitarien, ça, hop, c'est un petit bouclier. Non, t'inquiète, je fais attention quand même, mais de temps en temps, c'est plus fort que moi, mais globalement, je fais attention. Donc c'est vrai que le terme flexitarien me fait relativement rire, parce que flexitarien, c'est plus ou moins ce qu'il faudrait faire si on voulait manger comme il y a quelques décennies en arrière. Moi, personnellement, si on me dit comment t'as mangé quand t'étais gosse, bah, j'avais une diète flexitarienne, en fait, puisque globalement, je mangeais des végétaux et des aliments non animaux, très peu. Et puis, de temps en temps, je me souviens, quand mon oncle venait nous voir, qui avait un peu plus de moyens que mes parents, il s'arrêtait à la boucherie pour nous acheter de la viande rouge et on mangeait un roast beef, ou alors, de temps en temps, on avait un poulet rôti. Donc, on était globalement flexitarien, puisqu'on mangeait très peu de viande et de poisson. Notre alimentation était plutôt composée d'aliments d'origine végétale. Bon, mais aujourd'hui, ça a un nom, ce truc-là. C'est les flexitariens. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à me dire que c'est marrant, parce que ça permet d'avoir un petit bouclier, parce que sinon, si ce terme n'existait pas, c'est des omnivores, donc des salauds, quoi. Bon. Et moi, personnellement, je sais pas où vous habitez, vous, mais moi, dans ma communauté, si je peux dire les choses comme ça, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de communauté, mais moi, dans mon cercle social, j'ai qu'une seule personne qui mange pas de viande. Mais c'est pas végétalien pur, il y a du fromage, des œufs et tout ça. Mais globalement, moi, je ne dois pas faire partie du bon milieu, puisque j'ai pas beaucoup de végétariens ni de végétaliens autour de moi. Je sais qu'il y a des personnes qui, au contraire, sont hyper ils fréquentent beaucoup de milieux où la cause animale et tout est très présente. Et c'est légitime. Moi, je pense que effectivement, il y a des gros problèmes de ce côté-là. Mais je ne suis pas pour non plus supprimer les produits carnés de la bouffe, de l'alimentation, y compris de l'alimentation de l'enfant, pour diverses raisons. Je vais pas les détailler ici, mais je pense qu'il y a quand même un rôle à la fois écologique et à la fois sanitaire à consommer des protéines animales. Mais bon, ça n'est que mon point de vue. Et ça ne reflète pas certainement la réalité de beaucoup de personnes. Ça ne correspondra pas à leur valeur. N'oubliez pas que beaucoup de combats dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, ce sont des combats qui sont liés aux valeurs de chacun. Et à partir du moment où les valeurs diffèrent, les combats sont perdus d'avance, en fait. Hein. On peut pas. Si on avait les mêmes valeurs, on pourrait essayer de trouver, de débattre et d'avoir. Mais on n'a pas les mêmes valeurs. Il y en a qui veulent sauver les animaux, d'autres la planète, d'autres la santé. Donc globalement, si on les met les trois autour d'une table, ils vont pouvoir débattre de tout un tas de choses, ils auront tous les trois raisons, mais finalement, il n'y aura aucune solution ne va accoucher de ce genre de débat, quoi. Il faut vraiment essayer de devenir cohérent sur des sujets comme ça, mais pour l'instant, étant donné que tout le monde est divisé par des valeurs diverses et variées, on n'arrivera jamais à trouver quelque chose de cohérent, donc ça sera des manifs, etc. Donc respectons les autres. Moi, personnellement, les véganes me dérangent pas. Ils ont certainement beaucoup plus de courage, d'empathie que moi. Mais les omnivores non plus. Je veux dire, sinon je vais me mettre à dénigrer tout mon entourage et certainement une grosse partie de mes auditeurs. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué de se faire un point de vue là-dessus. Et la seule chose qu'on pourrait tous se mettre d'accord sur quelque chose, par contre, c'est que l'industrie agroalimentaire, en tout cas, elle se pose pas de questions. Hein. Elle se dit, là, il y a une part de marché qui est en train de se créer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'y glisser, quoi? Et eux, ils répondent à tout. Hein. Cause animale, pas besoin plus besoin de manger d'animaux, la planète est sauvée, et la santé va mieux. Donc, en fait, là, il y a une start-up parisienne qui a levé cet été 2,3 millions d'euros de fonds auprès de Business Angel et de la Banque publique d'investissement BPI. Et ils ont déjà développé des œufs de saumon et du caviar végétal à partir d'extraits d'algues. Donc on va sauver le monde avec des œufs de saumon et du caviar végétal. Non, je plaisante. Je pense qu'ils font la même stratégie que Tesla. Vous savez, Tesla, dans le monde automobile, quand ils sont arrivés pour taper fort, ils n'ont pas sorti la Model 3. Ils ont sorti le Roadster. Tout le monde en voulait. Les stars en voulaient. Il a rendu le produit inaccessible parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Même, je crois que c'est DiCaprio qui avait demandé à Elon Musk, s'il te plaît, je veux un roadster pour j'en veux un. Il a dit non, t'en auras pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, un roadster Tesla avait été placé dans le garage en sous-sol du premier Iron Man. Regardez bien, ça n'est pas une Lotus, c'est la carrosserie, donc c'est la même forme qu'une Lotus. Vous savez, ces petites voitures anglaises. Donc c'est la même carrosserie, etc. Mais par contre, c'est une Tesla. Et donc du coup, c'est un petit peu la même stratégie là que font, qu'a fait cette start-up parisienne, de créer un produit, vous savez, assez luxe, donc le caviar et tout, pour appeler un petit peu, bah, c'est normal, hein, on appelle un petit peu le public avec des produits un peu plus, comment dire, un peu plus buzz, un peu plus bankable, quoi, pour derrière sortir de mémoire, c'est du cabillaud, je crois, sans poisson, en fait. Enfin, ça me fait toujours bizarre de me dire que je vais manger un truc qui n'est pas... Je préfère ne pas le manger, en fait. Moi, si j'étais dans ce... Parce que le but, en fait, de ça, c'est de vous proposer un produit qui aura l'odeur, le goût, la texture, enfin, tout ce que vous voulez, comme le poisson, sauf qu'à l'intérieur, ça sera des farines de pois chiches ou de j'en sais rien, du colza, des protéines de pois... etc, etc. Donc il y a le problème des oméga 3, enfin bon bref, il y a le poisson, enfin globalement c'est quand même intéressant de voir qu'ils veulent réduire, mais ils disent qu'il y a de la surpêche et tout ça, mais la surpêche, moi j'ai toujours un espèce de biais, en fait, parce que il y a de la surpêche, d'accord, mais moi globalement quand je regarde dans mon quotidien les gens autour de moi, c'est quand même... C'est rare des gens qui mangent du poisson. Enfin, je sais pas chez vous, mais moi autour de chez moi, j'ai pas beaucoup de personnes qui vont chez le poissonnier s'acheter leur filet de poisson, ou globalement ceux qui vont manger des... Alors ceux qui font de la surpêche, c'est quoi ? C'est... Il y a un abus de poisson pané peut-être. Mais bon, là, est-ce qu'on est vraiment encore dans du poisson ? Comme dirait Coluche, poisson carré avec les yeux dans les coins. Est-ce qu'il y a un abus de ce genre de poisson ? Bon, est-ce que ce serait les industriels type fast-food et tout qui en prendraient beaucoup parce qu'il y en a dans les sandwichs, je sais pas. Mais globalement, dans votre quotidien, à part du thon peut-être, pour ceux qui font de la muscu, et un peu d'autres poissons, bon, il n'y a pas beaucoup de consommation de poissons. Mais en même temps, si on dit aux gens, arrêtez de manger de la viande, bon, d'accord, on mange quoi ? On va manger du poisson ? Ben non, le poisson aussi, il y a de la surpêche. Ok, bon, ben vous faites chier, en fait, on mange quoi ? Des œufs ? Bon, non, les poules, ça va pas. Il y a un problème, en fait. Pourquoi avant, on arrivait à les nourrir, tous ces gens, avec des aliments comme ça, et aujourd'hui, on n'y arrive plus ? Bon, on est peut-être trop nombreux, c'est peut-être le cas, mais on est peut-être aussi habitué à manger des merdes, en fait, hein, des trucs, enfin, des merdes, des aliments, ou à l'intérieur... Un aliment transformé, en fait, quand on mange un aliment transformé, par exemple, un poisson ou quoi, regardons ce qu'il y a dans la chapelure. Donc, du coup, quand vous mangez des poissons panés, il y a peut-être deux œufs, en plus, parce qu'il y a de la chapelure. Donc, du coup, c'est vrai que ça, quand vous mangez le poisson frais, vous mangez le poisson frais, vous mangez pas d'œuf avec. Il n'y a pas déguisé dans le produit transformé, enfin, masqué des œufs, des choses comme ça. Et encore une fois, moi, je pense, hein, que cette problématique de l'alimentation transformée, c'est aussi une problématique de masque, en fait. Les gens ne savent plus concrètement ce qu'ils mangent. Quand ils mangent un poisson, ils savent pas qu'ils mangent en même temps des céréales ou de la chapelure ou vous savez, de la farine et des œufs. Et pour eux, ils ont mangé du poisson, point. Non, ils ont pas mangé que du poisson. Et en fait, déjà inconsciemment, quand on le sait pas consciemment, pardon, on peut pas se rendre compte qu'on participe à une exploitation énorme de produits alimentaires, quoi. Et c'est vrai que de revenir à des choses, j'ai l'impression, toutes les trucs qui lèvent des fonds, bah déjà les levées de fonds, mais tous ces trucs qui lèvent des fonds, qui font comme ça des trucs, tant mieux, mais je veux dire, ça génère tellement de pognon pour lever des fonds, d'énergie certainement pour développer des produits et tout. Mais je veux dire, mais on peut pas redistribuer un peu de cette caillasse et de cette énergie mentale et de ce recherche et développement. Arrêtons d'essayer d'innover sur la bouffe. La bouffe est là depuis des années, elle est présente, on la connaît, en fait. Il n'y a pas besoin d'innover. On sait avec quoi l'homme y fonctionne. Pas besoin de chercher à innover. Essayons plutôt de dire, bon, ben, on peut pas mettre un peu le frein à main sur l'alimentation transformée et on peut pas injecter ces 2,3 millions d'euros de fonds versés vers justement des stratégies autres, quoi, des campagnes pour dire aux gens, ben vous savez, quand vous mangez un poisson pané, à l'intérieur, finalement, il y a aussi des poules, enfin, j'en sais rien, mais d'alerter et que le regard soit pas... Là, en fait, on continue, on encourage une stratégie de produits transformés. Donc, moi, j'ai toujours du mal avec j'ai un doute, en fait, sur en fait la crédulité des gens, je sais pas si je peux dire les choses comme ça, mais au bout d'un moment, soit les gens ça va créer un nouveau process interne, ils vont croire que c'est de la bonne bouffe, soit les gens à un moment donné ils vont se lever, ils vont se dire bon bah attends, en fait vous nous dites, on entend parler de bouffe transformée tout le temps. Et vous nous pondez un aliment qui est censé être meilleur pour la planète et tout, mais la liste d'ingrédients, elle est plus longue que celui que je consommais avant. Il n'y a pas un problème. Et c'est ce genre de comportement, en fait, moi, je pense, qui me conduit à l'autre sujet, d'ailleurs, au Nutri-Score et au fast-food. Je trouve qu'il y a, un réel problème. Il n'y a pas d'éducation nutritionnelle derrière, quoi. Donc, le sujet suivant, c'est Nutri-Score et fast-food. C'est un peu le titre du podcast également. Maintenant, vous allez pouvoir manger fast-food sans culpabiliser. Je vais m'expliquer. En fait, vous connaissez le Nutri-Score. Donc, le Nutri-Score, je peux vous le dire tout de suite. Nutri-Score est calculé à l'aide d'un algorithme scientifiquement validé. Il prend en compte pour 100 grammes ou 100 millilitres de produits alimentaires la quantité de nutriments dont la consommation excessive est néfaste pour la santé. Donc, énergie, donc les calories, le sel, le sucre, les acides gras saturés. Et la quantité de nutriments et d'ingrédients à favoriser, donc les protéines, les fibres, mais aussi quantité de fruits, légumes, légumes secs, noix et huile de colza, de noix et d'olive. Bon, très bien. Mais on va voir un petit peu ce qui se passe. Le temple de la malbouffe, McDonald's. Alors, c'est pas moi qui dis ça, hein. Je crois que c'est Libé, le truc qui est là où j'ai récupéré la source. Donc, le temple de la malbouffe, McDonald's. Pour moi, c'est pas le temple de la malbouffe, McDo. Hein. Je vais pas me faire des copains, je sais, mais pour moi, McDo n'est pas la pire chose qui existe en termes de malbouffe. Hein. Et je pense encore, et je le répète assez souvent, quand vous êtes sur le sommet de la montagne, vous avez beaucoup plus à perdre que ceux qui démarrent. Et à mon avis, des franchises comme McDo sont sanitairement bien plus saines que des franchises qui démarrent, ou vous savez, ou enfin voilà quoi. C'est mon point de vue. Je pense que quand vous avez beaucoup à perdre, vous êtes beaucoup plus sujet à faire attention à ce que vous faites. Donc bon, je cite ce que dit le journal. Hein. Ils disent le temple de la malbouffe, McDonald's accueille depuis cet été un fidèle plutôt incongru, le Nutri-Score. Donc tout le monde s'attendait pas, enfin personne s'attendait à ça quoi. Ce logo nutritionnel, encore facultatif, mais qui pourrait devenir obligatoire dans toute l'Union européenne d'ici fin 2022, on se demande pourquoi ça ne l'est pas encore obligatoire, mais bon, bientôt ça va l'être et facile pour tout, parce que si McDo le prend, tout le monde va le prendre, est venu estampiller les produits phares de la première chaîne de restauration rapide de France. Donc le double cheese est noté D, Nutri-Score D, donc c'est plutôt négatif, le Big Mac C, bon, ça va, et étonnamment, les frites sont notées B. Bon. Alors moi j'ai fait ma petite enquête pour aller voir à quoi ça ressemble tout ça. Donc déjà une première phrase que j'ai récupérée sur un document sur le site Nutri-Score, hein. L'algorithme qui sous-tend le calcul du Nutri-Score a été validé par des études scientifiques observationnelles qui ont permis de montrer que les personnes consommant des aliments avec des meilleurs scores présentaient un risque plus faible de maladies chroniques liées à la nutrition, par exemple syndrome métabolique, cancer, maladies cardiovasculaires ou de mortalité. Ok, moi c'est moi qui parle, c'est plus le truc, hein. Je veux pas leur faire dire n'importe quoi. Donc là, c'est fini. Fin de citation. Donc vous avez entendu tout ce que je viens de raconter, c'est bien, parce que les gens qui consomment des Nutri-Score meilleurs, c'est mieux. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont consommé, ces gens ? Parce que dans le A, il y a ces aliments-là, on pourrait, si on y met les courgettes, de la viande maigre, etc., et qu'on se dit, bon, bah, globalement, en fait, dans le Nutri-Score, les aliments Nutri-Score, vous avez des aliments effectivement qui sont bons, et d'autres que je juge personnellement, hein, ça n'est qu'à mon point de vue, moins bon. Donc si je fais moi-même ma sélection, donc je vais prendre des aliments qui ont un bon Nutri-Score et que je juge sains, donc c'est-à-dire pas peu transformés, vraiment comme des aliments que vous pourriez faire chez vous, etc. quoi. Donc pas avec des additifs nocifs et tout. Vous faites manger ça à des gens et puis vous détectez que globalement, quand les gens mangent des légumes, des fruits et tout ça, ça va bien. Et après, vous dites, ça va, en fait, nous, notre truc, ça marche, parce que quand les gens mangent ça, oui. Mais le problème, c'est qu'en fait, vous mettez aussi des Nutri-Score A sur des aliments qui, à mon avis, ne font pas partie de la diète des gens que vous avez étudiés. Parce que là, j'ai devant les yeux. Donc, je suis sur world.openfoodfact avec tous les labels et tout ça. Et je suis donc sur une page où il y a le Nutri-Score. Donc, je prends par exemple les galettes de blé noir bio de Carrefour Bio. Donc, ces galettes de blé noir que j'ai déjà consommées, puisque c'est des galettes de sarrasin, en fait, hein, comme des crêpes de sarrasin, vous savez. Je vais vous donner la liste des ingrédients. Donc, eau. Premier ingrédient, c'est de l'eau. Deuxième ingrédient, de la farine de blé noir biologique, 33%. Du sel de Guérande. Et c'est tout. Donc là, on n'est pas dans un aliment hyper transformé, je veux dire de l'eau, de la farine de sarrasin et du sel de Guérande. C'est tout, il n'y a que ça, il n'y a pas d'additif, rien. Donc on a un Nutri-Score pour ce truc-là qui est B, donc plutôt correct. C'est pas l'idéal, parce qu'il y a un peu de sel et tout peut-être, mais on est dans un Nutri-Score B, ce qui me semble cohérent. Mais juste à côté, hein, sur le tableau que j'ai, donc je pourrais même vous mettre le lien, j'ai les cacahuètes grillées. Donc les cacahuètes grillées, ingrédients, bon ben voilà, y a les ingrédients, il n'y a certainement que de la cacahuète, parce qu'ils ne mettent rien même. Mais le truc qu'il y a, c'est que comment on peut mettre... Ah non, excusez-moi, et la liste des ingrédients, ils ne l'ont pas mise, mais elle y est là, sous mes yeux. Ingrédients, cacahuètes, huile de tournesol, traces éventuelles de céréales contenant du gluten, bon, ça, c'est, ils le mettent partout. Donc, de l'huile de tournesol et des cacahuètes, c'est mieux que ma crêpe de sarrasin. Elle a, ça a ce truc-là. Mais attendez, je continue, parce que ça me paraît assez intéressant à vous détailler tout ça. Donc, je garde mon indice B pour mes galettes de blé noir. Pour rappel, c'est comme si vous faisiez des crêpes avec de la bonne farine de sarrasin chez vous et que vous mettiez une pointe de sel de Guérande dedans. Donc de l'eau, de la farine de sarrasin et du sel de Guérande. Donc on prend ça comme base et eux, pour eux, c'est pas du A, ça c'est du B. Ok. Et on va voir maintenant un autre produit qui s'appelle macaroni sauce tomate et boulettes de bœuf, d'une marque que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub, qui a un Nutri-Score A. Donc A, c'est-à-dire que monsieur ou madame français ou française moyenne qui passe dans le rayon voit score A et va se dire ça je peux en consommer au quotidien. Donc globalement cet aliment, vu que c'est un Nutri-Score A, on n'aurait pas de problème de maladie métabolique, rien du tout avec ça, bonne santé assurée. Les ingrédients, je vous les cite de l'aliment. Macaroni cuit 44,3%, eau, semoule de blé dur, huile de colza, tomate 26,7%, tomate pelée concassée, jus de tomate, boulette au bœuf 17,1%, préparation de viande de bœuf cuite, viande de bœuf origine France 11%, blanc d'œuf de poulet élevé en plein air, eau, extrait de bœuf, fécule de pommes de terre, oignon, extrait de légumes, carottes, tomates, oignons, ail, huile de tournesol, sel, bouillon de bœuf, huile de tournesol, sel, eau, concentré de tomate, huile de colza, tomate semi-déshydratée et marinée 1,3%, tomate, huile de colza, sel, origan, ail, fromage, miel, farine de blé, basilic, fond de veau, bouillon de bœuf, sel, ail, épices. Donc ça a un Nutri-Score A. Et ma galette de sarrasin a un Nutri-Score B. Donc permettez-moi de douter de l'efficacité, cher gouvernement, ou je ne sais pas qui le fabrique, de votre algorithme. À un moment donné, les algorithmes, c'est bien. Ça permet de faire un peu plus la grasse mat et de partir plus tôt du travail parce qu'on a moins besoin de faire du cas par cas sur les aliments. Mais parfois, l'algorithme, il vous fait un petit peu des farces, j'ai l'impression. Hein. Ça n'est qu'un point de vue, mais j'ai l'impression quand même que l'algorithme vous fait parfois des farces et vous pond des Nutri-Scores un peu élevés. Élevé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire élevé avec une note positive. Et ça induit, moi je suis navré, mais ça induit dans le comportement des gens qui n'y connaissent rien une orientation vers des produits qui enfin, je sais pas, mais quand je regarde, j'ai l'impression que ça encourage quand même des produits qui vaudrait mieux éviter de consommer. Et ensuite, vous avez un deuxième score qui s'appelle le score Nova. Alors le score Nova, en France, personne n'en parle trop. Hein, et je pense que quand on va se mettre à en parler beaucoup, ça va faire chier tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le label Nova, c'est celui qui va observer l'indice de transformation des aliments. Donc comment se calcule ce score Nova ? Ce système de classification répartit les denrées alimentaires en quatre groupes selon la transformation qu'un produit a subie. Celui-ci se voit attribuer une note allant de 1 à 4 et des couleurs de vert pour le bon à rouge pour le moins bon. Donc 1, si vous avez un score 1 pour votre aliment, donc 1 est couleur verte, aliment non transformé ou transformé minimalement, mélange d'épices par exemple. Bon, déjà, enfin, pourquoi on met pas non transformé tout court ? C'est-à-dire que le meilleur, il y a quand même moyen de mettre un truc un petit peu retouché. Bah, mettez un truc cohérent, le 1, c'est rien. Le 1, c'est une courgette, quoi. Score 2, ingrédients culinaires transformés. Ok, donc pas de gradation, là, tu vois, c'est juste transformé. Bon, à quel niveau, on sait pas. Ingrédients culinaires transformés. Donc, vous voyez déjà la subtilité, parce qu'en 3, c'est aliments transformés. Donc, ingrédients culinaires transformés. Donc, ça veut dire quoi? Que par exemple, en deux, on peut avoir du bœuf, mais avec ce bœuf, on va y mettre peut-être une petite sauce avec des aliments qui viennent de la planète Mars ou j'en sais rien. Donc là, c'est juste des petits ingrédients comme ça transformés, mais le plat principal, ça reste de la viande. Bon, certainement, j'imagine que c'est comme ça, moi, que je le comprendrai. Trois, aliments transformés. Donc là, globalement, votre steak a subi des injections de Botox et compagnie. Là, ça y est, il est transformé. Le steak, il ressemble plus à un morceau de viande rouge, mais le truc, il brille, il sent bon, il grille parfaitement, il brûle jamais sur la poêle, ça y est. Et après, au niveau 4, produits alimentaires et boissons ultra transformés, additifs, soda. Donc là, moi, j'ai une problématique, c'est parce qu'entre le 1 et le 4, tous les aliments sont transformés. Donc non transformés ou transformés minimal pour le 1. Mais globalement, j'ai l'impression que on a inventé des termes ultra transformés et tout pour essayer de mettre un petit peu un extrême, mais globalement, dès le premier point, ça craint un peu. Mais quand même, si on associe ces deux choses-là, donc je retourne sur mon site initial, je vais vous reprendre un exemple. Par exemple, pour les galettes de blé noir, Nutri-Score B, Score Nova 3. Donc ça veut dire que c'est de la dope pour eux. Mais en fait, on a juste associé de l'eau, de la farine, de sarrasin et un peu de sel. C'est pas bon, c'est trop transformé. On va voir quelque chose qui me semble moins cohérent. Encore une fois, ça n'est que mon point de vue. Hein. Quelque chose qui me semble moins cohérent. Déjà, on a le même score de transformation que les fameuses macaronis là, que je vous ai citées tout à l'heure. Donc, alors que l'autre, elle a une liste d'ingrédients, ça remplit un caddie juste pour une boîte de... Enfin bon... qu'est-ce qui aurait un bon score? Globalement, ils ont tous 3 ou 4. Hein. Je regarde là, il n'y a personne qui a 1 ou 2. Donc, là, sur l'exemple qu'ils donnent, rien. Même les carottes râpées à l'échalote et au persil d'une marque qu'on ne citera pas, ça, score Nova 4. Alors, Nutri-Score A, mais score Nova 4. Et ça, on ne le verra pas tout de suite, hein, je pense, le score Nova, hein, parce que vous n'avez que du rouge. Les gens, ils vont s'habituer, ils vont voir le 4 rouge, c'est normal, tout le monde a ça de toute façon. Donc, on voit bien quand même que je suis allé voir un petit peu, là, pour revenir à notre temple, soi-disant temple de la malbouffe qui est McDo. Au moins, ils ont eu le courage de le faire, hein, d'afficher du Nutri-Score. Mais je suis allé voir sur McDo. Je me suis dit, McDo, qu'est-ce qui... alors, attendez, j'ai perdu le site. McDo, Nutri-Score. Parce qu'eux, ils ont fait ça bien. Hein. Ils ont fait un tableau. Ils ont dit, écoutez, on assume. Maintenant, on vous balance le tableau droit dans nos bottes. Et ils ont bien raison. Et donc, du coup, personne va aller le voir. Mais moi, je suis allé le voir. C'est un petit PDF et vous avez tous les aliments de chez McDonald's qui sont référencés. Bon, globalement, le 280 Nutri-Score D, Big Mac C, Big Mac Bacon C, Big Tasty D, etc. Bon, je vous passe tous les détails. Mais par contre, dans ceux qui ont plutôt des notes sympas, on va avoir le McChicken qui a B, le McFish qui a B, le McMuffin Egg and Cheese B, le Petit Wrap B. Qu'est-ce qu'on a d'autre en B? Le double filet au fish. Bon. Salade classique César A. Petit pain bio B. Les potatoes B. Les frites B. Petit concombre A. Petite carotte A. Petite salade A. Petite tomate A. Bon. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu comme, vous savez, l'industrie automobile. C'est-à-dire que l'industrie automobile, vous savez, il y a ce qu'on appelle le downsizing. Ça veut dire qu'on doit réduire les moteurs, etc., pour réduire les émissions de CO2. La pollution et tutti quanti. Donc le problème, c'est que bon, pour une marque comme Peugeot, Renault, Citroën, ils s'en foutent, ils ont toujours eu des petits moteurs, quasiment. Il y a eu des exceptions, mais globalement, dans le quotidien, ce qu'on voit, c'est plutôt des petits moteurs. Ça les dérange pas. Par contre, quand vous avez une marque comme BMW, Audi, Mercedes, Jaguar, Porsche, etc., vous dites, mais attends, moi, si je me mets à produire une 911 3 cylindres, les gens, ils vont un peu piailler, quoi. Donc ce qu'ils ont trouvé, ils ont dit, ouais, non, mais attendez, c'est sur l'ensemble de votre production, c'est-à-dire que vous devez avoir un bon score entre votre modèle d'entrée de gamme et votre modèle hyper sportif. Donc si vous voulez continuer à produire une 911 hyper puissante, vous devez derrière produire une voiture qui pollue moins. Donc Porsche est un mauvais exemple, même s'ils ont une ou plusieurs électriques aujourd'hui, même des hybrides, mais on va prendre BMW. BMW, vous avez d'un côté une BMW M8 qui doit polluer à mort, etc., et qui a un super gros moteur pour les passionnés, mais à l'opposé, vous avez une 116i série 1, ou enfin une toute petite voiture comme ça qui pollue peu. Donc en fait, dans l'ensemble de votre production, Vous devez avoir beaucoup de voitures qui gagnent des points pour pouvoir produire des sportifs pour les passionnés. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Pour vous permettre de produire des, de vendre des aliments qui ont un mauvais Nutri-Score, il faut dire, oui, mais attendez, nous, on a des options saines. Mais je reviens un petit peu au discours. C'est pour ça que j'aime bien meubler un petit peu avec tout ce que je lis. Je me dis donc que si je reprends le document, qui est un document, pour rappel, ce que j'ai dit là par rapport au, à la science, etc., le doc qui disait que le Nutri-Score est calculé à l'aide d'un algorithme et qui disait que les études scientifiques observationnelles ont permis de montrer que les personnes consommant des aliments avec des meilleurs scores présentaient un risque plus faible des maladies chroniques. Ok, donc globalement, une personne bête et disciplinée peut se rendre dans un fast-food et consommer que des McChicken, des McFish, des McMuffins, machin chose. Donc c'est que du B, hein. Et de temps en temps prendre quelques carottes et tout pour avoir du A. Des frites évidemment et pas des potatoes parce que les frites ont un bon Nutri-Score. Et du coup se retrouver sans problème de maladie chronique puisqu'on a suivi votre algorithme. Donc là, il y a un problème en fait. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a même pas besoin d'avoir de connaissances en nutrition pour se dire qu'il y a un problème. Et c'est là, en fait, où je dis l'algorithme, à un moment donné, c'est on veut tout généraliser. Et ces foutus algorithmes veulent essayer de solutionner des problématiques diverses avec la même façon de calculer les choses, d'organiser. C'est pas bon. À un moment donné, il faut reprendre des individus, des êtres humains. C'est pour ça, quand je vous disais un côté un peu réac, c'est là que j'interviens. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais c'est le futur, les algorithmes, c'est très bien. Ça fait depuis je sais pas combien de temps que j'entends que c'est le futur et on n'a pas trouvé un foutu algorithme capable de nous donner des trucs cohérents. C'est-à-dire qu'on voit bien les limites ici d'un algorithme qui est que si vous mettez l'intégralité de ce qui existe à manger sur Terre dans le broyeur algorithmique qui est le Nutri-Score, vous allez vous retrouver avec des incohérences. Je suis navré de le dire, mais j'ai quand même un petit peu de bagage en nutrition, avec les connaissances que j'ai et toutes les lectures scientifiques que j'ai pu avoir ces dernières années. Je ne peux pas placer sur la même ligne un McFish et des galettes de blé noir avec trois ingrédients que vous pouvez avoir dans votre frigo, qui me semblent quand même relativement sains. Donc c'est pour ça que moi j'ai rien, encore une fois, comme je le dis souvent, j'ai rien contre les chaînes de fast-food et tout. Je pense que c'est une partie de plaisir, ça serait pour moi comme dire d'interdire le cinéma ou d'interdire la patinoire et tout, ça fait partie de la culture, des petits plaisirs qu'on peut avoir dans la vie, donc j'ai rien contre ça. Encore une fois, mon combat, moi je n'irai jamais manifester contre un fast-food et tout ça. Par contre, j'ai un problème dans la logique déjà cet algorithme, pour moi il a des failles, hein. Je pense que des failles, c'est mon point de vue. Je pense qu'il a des failles et qu'on ne devrait pas l'appliquer à tout. On devrait plutôt essayer de le personnaliser. Le score Nova derrière, parce que là, si demain, Nutri-Score, c'est bien chez McDo, mais si McDo se met à appliquer le score Nova, c'est obligatoire, il y aura du score rouge quasiment partout, sauf pour les petits fruits, les trucs comme ça, quoi. Donc, ça me pose problème, en fait, les algorithmes, ça va un moment. Laisser les algorithmes pour les vidéos YouTube et tout, ça marche plutôt bien, tant mieux pour les YouTubeurs. Quand on comprend l'algorithme, on peut avoir des bons scores. Mais quand il s'agit de manger, de bien manger, faites attention parce que les gens vont s'en rendre compte, moi c'est ce que je me dis, vont se rendre compte qu'il y a un problème, en fait. Quand on voit un Nutri-Score B sur un sandwich, avec de la sauce et tout, on va commencer à se poser des questions. Et le problème, c'est qu'en fait, après les gens, ceux qui réfléchissent un peu, ils vont se dire, mais attends, c'est les scientifiques qui ont validé ça, donc ça veut dire que notre santé est soumise peut-être aux mêmes scientifiques. Donc ok, là on parle de Nutri-Score pour la nutrition, mais est-ce que c'est la même chose pour d'autres sujets de santé? Parce qu'après, les gens vont se poser des questions, quoi. Ils peuvent se dire, ouais, mais ça craint, en fait, parce que ça me semble pas très cohérent de mettre tous les aliments dans le même mixeur algorithmique, quoi. Et donc voilà, moi, quand on a un peu de connaissances, on se fera jamais avoir. Mais je veux dire, quelqu'un qui n'en a pas, et je pense que ces Nutri-Score, peut-être qu'à un moment donné, ils viendront à être hyper connus par le grand public. Les enfants d'aujourd'hui deviendront les adultes de demain, qui seront peut-être orientés par ce genre de petits baromètres de santé. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on est les bêta-testeurs, hein. Faut se dire une chose. Enfin, nous, non, parce qu'on est dans le monde du fitness, mais globalement, les gens, le grand public qui ne pratique pas, qui ne s'intéresse pas à la nutrition et tout, ce sont les bêta-testeurs du Nutri-Score. C'est-à-dire qu'ils ont balancé ça, et dans 20 ans, ils nous diront, bon, voilà, ça fait 20 ans qu'on a balancé le Nutri-Score sur les trucs. Est-ce qu'on a noté, oui, non, des modifications de comportement alimentaire? Est-ce qu'on a moins de maladies et tout? Bon, moi, je peux vous garantir que là, aujourd'hui, le tampon, c'est pas d'assainir. dans les industriels, ils veulent pas assainir leur aliment pour entrer dans le côté santé. Ce qu'ils veulent, c'est ils ont compris la logique d'un algorithme qui pénalise quand il y a du sel, du sucre et tout, donc on va le blinder d'autre chose, mais ça va pas détransformer un produit, ça va le transformer autrement et de répondre, de hacker un algorithme comme plein de personnes font. Ça me fait un peu penser, vous savez, au début des sites internet, rappelez-vous sur les premiers sites internet que vous êtes allé consulter au tout début d'internet, hein. Vraiment au début de Google, il y avait ce qu'on appelait des nuages de mots-clés. Vous alliez lire un article et puis en fait sous votre article que vous lisiez depuis un ordinateur, pas depuis un mobile puisque c'était pas possible, vous aviez sur le côté un nuage de mots-clés où il y avait tout un tas de mots-clés. Si vous regardiez un article par exemple sur la musculation pour les pectoraux, il y avait marqué pectoraux, musculation, développé couché, avec des mots-clés qui étaient gros, des plus petits, c'était des nuages de mots-clés. Et il y en a qui abusaient de cette technique-là, qui utilisaient comme ça plein de mots-clés parce qu'ils avaient compris que l'algorithme de Google, quand ils voyaient le mot répété plein de fois, ils le mettaient en devant du truc. Ils avaient compris ça. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on subit un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a qui se disent que, attends, le Nutri-Score, il nous place bien quand on met plein de ça et pas beaucoup de ce truc, donc on va le mettre comme ça. Et ça me fait penser un peu à ça. Et je trouve que c'est dommage parce que aujourd'hui, un algorithme sur Google, ça pénalise pas trop la santé. Mais par contre, dans son assiette, ça m'embête un peu que les gens soient des bêta-testeurs comme ça à échelle mondiale, quoi. Enfin, mondial, je sais pas si le Nutri-Score est mondial, mais en tout cas européenne. Bon, et après le score Nova, c'est autre chose, c'est sur les produits transformés. Et d'ailleurs, l'INRA, donc là je cite, hein, de nouvelles recherches des chercheurs de l'INSERM, de l'INRA et de l'Université Paris 13 EREN suggèrent une corrélation entre la consommation d'aliments ultra transformés et un risque accru de développer un cancer. Donc attendez, moi je vois ça. Donc comment, déjà, on voit bien que c'est pas compatible, puisque eux, ils viennent de suggérer ça, ok ? Moi, je suis plutôt d'accord avec ça, hein. Les aliments ultra transformés, c'est pas bon pour la santé. Donc à terme, peut-être un cancer, ok. Mais en même temps, les autres du Nutri-Score nous disent que leur truc, ça, il y avait moins de maladies. Ouais, mais attends, leur Nutri-Score positif, ils l'appliquent à des aliments ultra transformés, voire très transformés. Donc comment on fait, en fait ? Le score Nova, on revient au point zéro. C'est-à-dire que le score Nova sera souvent pas cohérent avec le Nutri-Score. Donc on va après en avoir un autre qui dira oui mais c'est très bien mais il manque aussi le score je sais pas quoi, ils vont inventer un autre donc les gens vont plus s'y retrouver. Et le but c'est ça, hein, c'est comme sur tous les trucs un peu qu'on n'a pas envie que vous ayez envie que vous deviez comprendre etc, on rend les choses compliquées. Fusionnez-moi ce foutu score Nova avec le Nutri-Score. C'est-à-dire de prendre l'algorithme Nova et fusionnez-le à celui du Nutri-Score. Et là, déjà, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus pointu. Ça, c'est mon point de vue, hein. Mais si vous mettez le côté transformé dans l'équation, ça va mieux marcher. C'est sûr. Parce que là, ça marche pas, hein. Mal, en tout cas. Parce que il y a des gens qui comprennent l'algorithme et qui voilà. Donc, tout cet argent qui est mis sur ce genre de choses, faites des foutues campagnes de publicité, imposez du 50-50 dans les pages publicitaires, c'est-à-dire 50% pour la bouffe transformée, ok. Si vous mettez ça, mettez 50% pour de la nourriture saine. J'en sais rien, mais vous avez des moyens pour faire des tas de choses et essayer de vous orienter vers des choses qui, concrètement, peuvent remettre en avant des aliments qu'il faut consommer, qu'il faudrait consommer. Parce que c'est pas normal aujourd'hui de ne pas avoir des légumes dans son frigo ou dans son congèle qui n'aient pas subi un ajout de matière grasse, de tout un tas de saloperies, de sel, de sucre ajouté pour que ça soit bon au goût et tout, quoi. Je sais pas, remettez des émissions de cuisine avec des aliments sains. Elle nous manque, Maïté, quoi. Peut-être qu'elle était pas en santé, Maïté, mais en tout cas, elle était encore avec des aliments un petit peu bruts, quoi, un petit peu plus traditionnels que une pâte à tartiner ou qu'un fast-food ou autre, quoi. Bah, ça me paraît peut-être du bon sens. Donc c'est là où il y a mon côté réac qui ressort peut-être, mais j'ai l'impression quand même qu'on pédale vachement dans la semoule avec tout ça et que ça avance pas très très bien, quoi, et que ça va pas forcément dans le bon sens au niveau de la nutrition. Ça devient quand même un parcours du combattant, hein, de bien se nourrir au quotidien, et je pense que c'est pas... Tant qu'on est dans une stratégie d'innovation, on a un problème. Les gens essayent d'innover sur la bouffe. Mais il n'y a pas besoin d'innover, en fait. La nourriture est présente. Et au contraire, on est plutôt en train de... l'innovation, ça serait d'éviter qu'elle disparaisse, la bonne. Donc essayez d'innover de ce côté-là. Beaucoup de personnes essayent d'innover pour fabriquer un nouveau mode. Je sais pas, ça devient un truc qui cherche un prix Nobel. On a réussi à créer un aliment, mais c'est pas bon. L'être humain, on est ici aujourd'hui parce qu'on a mangé ce qu'on a trouvé dehors, ce qu'on a chassé, ce qu'on a pêché, ce qu'on a cultivé, ce qu'on a cueilli. Et je pense pas que personnellement, j'ai pas envie que mes enfants soient des bêta-testeurs de votre caviar et de votre truc sans poisson. Ça me paraît, je suis peut-être... pourtant, enfin, je veux dire, ça me paraît pas sain, en fait, que l'être humain fabrique sa propre bouffe, quoi. Il faut accepter un petit peu l'humilité que on est dépendant du reste du monde, en fait, de la nature pour manger, et pas être trop hautain et se dire on va fabriquer notre propre bouffe. Je pense que c'est une erreur. Après, peut-être que je me trompe. C'est certainement très bien, par exemple, pour s'il y a une famine ou quoi, d'être capable de faire ce genre de choses. Mais pour la vie quotidienne, je pense qu'il y a d'autres solutions. Et en tout cas, les solutions que je propose, elles sont peut-être simples et j'en sais rien. Mais pourquoi elles sont pas faites? J'ai du mal à comprendre. Enfin, je suis très naïf, hein, quand je dis ça, évidemment, mais je comprends pas que des choses aussi simples ne soient pas mises en place, quoi. Je pense que les bonnes personnes manquent de moyens et les mauvaises en ont trop. Voilà, c'est mon point de vue. Et encore une fois, la seule arme qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est l'éducation. Voilà, formez-vous. Qu'est-ce qu'une nutrition qui ne met pas en mauvaise santé? Quels sont les aliments qu'il faut consommer pour retrouver la bonne forme, la bonne santé, le bon physique et tout ce que vous voulez? Et je pense que, en attendant que tout le monde se bat dans ce petit monde de l'industrie et des startups pour essayer de décrocher le devant de la scène et l'article dans le quotidien le plus populaire du pays, moi je vous recommanderais plutôt de vous former sur ce qu'est une bonne nutrition pour essayer de vous rendre un petit peu plus indépendant de ce côté-là et un petit peu plus autonome sur vos choix alimentaires. Voilà. Bon, je vous laisse ici. Si vous avez envie justement de rester motivé pendant une dizaine d'années et plus, à travers les mois, à travers les semaines, à travers les années, etc., de garder un bon niveau de motivation, vous avez tout le plan, tout le... Je sais pas comment on peut dire, pas la hiérarchie, mais c'est un nom, là, vous savez, c'est... Enfin bon, je me rappelle plus du nom exact que ça... Mais un genre d'organigramme, quoi, chaque période de temps, qu'est-ce qui se passe les trois premiers mois. D'ailleurs, le fait déjà, je pars carrément du moment où la personne décide d'aller s'entraîner jusqu'à au moment où elle arrive à plus de 10 ans d'entraînement, et je trace la ligne qui, avec tous les traits de comportement, de caractère, de choix, etc., qui l'amène à justement à tenir plus de 10 ans et pas s'arrêter tous les trois mois de s'entraîner, reprendre et tout. Parce que ce que je dis, une personne, on ne compte pas ses années d'entraînement en disant j'ai fait 2 ans de mes 20 à mes 22, puis après j'en ai fait 5 de mes 30 à mes 35. C'est pas comme ça, hein. Pour moi, à chaque fois qu'on arrête plus d'un an l'entraînement ou plus de 2 ans l'entraînement, hors blessure, parce que là c'est différent, pour moi on repart à zéro. En fait, on peut pas, on repart à zéro. Voilà, voilà, on a des petites bases, ok, mais on repart à zéro quand même. Donc pour moi, c'est l'idée du plan que je propose, c'est comment tenir sans s'arrêter, autre que si vous avez une blessure ou une obligation de santé, mais sinon de tenir tout le temps. Donc le lien est dans les notes là de ce podcast et on se retrouve de l'autre côté du rideau si ça vous intéresse. Voilà, allez, à plus, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours, hein, que je propose. Il y en a déjà plus de 300. ce sont bah voilà sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.